Alors, dernier spectacle aussi au programme, au catalogue de la compagnie Akosal, donc Christophe et Manu. Donc, ce spectacle qui s'appelle Qu'il n'y a pas de problème dans l'emploi. Alors, c'est quoi ça?
Vous voyez que les intermittents, ça bosse tout le temps, quoi, quand même. Qu'il n'y a pas de problème dans l'emploi. Bah, c'est Christophe Lescureux qui m'a fait un jour découvrir ce texte de Renaud Camus. Le titre flash obligatoirement, Qu'il n'y a pas de problème de l'emploi.
Surtout dans la région, ouais.
Du coup, je l'ai lu.
Mais je crois que c'est dans toutes les régions, pas propre à la nôtre. Mais oui, c'est un texte qui parle, enfin, qui parle du problème de l'emploi, bien sûr, mais qui parle plus généralement du problème de ce qu'on fait de sa vie, de quelle manière on l'occupe, bien sûr, sans oublier les contingences matérielles, et de savoir, effectivement, quand on occupe pleinement sa vie, de pouvoir à la fois manger et nourrir ses enfants. Mais je crois que c'est un petit pamphlet, enfin, qui permet de réfléchir effectivement sur la place de l'homme dans le monde dans lequel on vit, et la place du travail, de ce qu'on y met autour. Et bah, effectivement, de savoir qu'on peut, on peut se débarrasser de cette vieille idée du travail et qu'on
obligatoire, celui de la
obligatoire.
vieille sagesse, de la vieille malédiction. Ouais, c'est simplement de dire, voilà, on n'est pas obligé de travailler, on n'est pas obligé de se suicider, même si le terme est fort et l'acte aussi est fort. On n'est pas obligé, comme on voit en ce moment, de travailler dur pour gagner sa vie. On peut aussi faire d'autres choses. Il y a des sources de revenus, il y a des différentes façons de vivre sa vie. On peut aussi être avec ses enfants. Après, il y a un problème d'argent, mais qu'on n'appelle pas le problème de l'emploi. Alors, c'est un problème d'argent.
On peut véritablement faire son choix, enfin, c'est-à-dire occuper sa vie correctement, et s'élever intellectuellement, s'élever physiquement, par une autre idée du travail que celle qu'on a majoritairement aujourd'hui.
Dans les usines et quoi que ce soit. C'est une toute petite forme, on est deux, un binôme où Christophe est derrière avec la vidéo, les dessins et les Playmobil, comme une conférence économique décalée, philosophique décalée. Et moi, je suis un petit peu le hangar où je suis là, économiste de 25e zone, qui essaie de trouver des solutions à ce problème de l'emploi, qui n'est pas forcément un problème de l'emploi, mais un problème de revenus. Et alors, si on avait l'argent, on pourrait aussi faire autre chose. Et on n'est pas obligé de pleurer pour aller bosser à l'usine.
Enfin, c'est un prétexte à réflexion, beaucoup.
Il n'y a pas de problème de l'emploi. Il y a que l'homme, grâce aux avancées de la science et de la technique, grâce à l'homme, en somme, est en train d'échapper à la vieille malédiction biblique du travail et de la sueur de son front. Voilà ce qu'il y a. Et par l'homme, à l'instar du Dieu de la Genèse, nous entendons l'homme et la femme, il va sans dire, car nous appartenons comme lui à la vieille grammaire et au vieux catéchisme. Quoique, d'un autre côté, toujours est-il qu'il n'y a pas de problème de l'emploi. Il n'y a jamais eu de problème de l'emploi. Les mots savent à peu près ce qu'ils disent en général. On ferait mieux de les écouter un peu pour changer. Être employé, ce n'est pas un idéal pour l'individu. Que tout le monde ait un emploi, ce n'est pas un idéal pour une société. Ce qui est un idéal individuel, ça, oui, c'est pour chaque citoyen d'être pleinement tout ce qu'il peut être. Et l'un n'allant pas sans l'autre, ceci étant la condition de cela, dans une certaine mesure, de ne manquer de rien en tout cas, qui lui soit nécessaire pour la poursuite de cet accomplissement suprême et qui les résume tous lui-même. Ce qui est un idéal social, sans aucun doute, c'est la prospérité et c'est la civilisation, ou le civisme, si l'on préfère, l'ordre, la délicatesse, les services de voirie, le droit, l'urbanité, enfin, les conditions économiques, juridiques, matérielles, pratiques, ce que je sais, qui permettent à tout être, sans être dérangé par ses voisins, par les bruits de vaisselle, par la guerre civile, par les exigences de sa survie ou par sa propre hébétude, de mener jusqu'au bout sa propre aventure de résident sur la terre, sa gestion d'exister, ce jeu savant avec la mort, le reste. Voilà des idéaux, des vrais idéaux, difficiles à atteindre, certes, mais c'est la loi du genre, n'est-ce pas? Tandis que l'emploi, un emploi, le plein emploi, vous plaisantez? Hélas, je vois bien à votre tête que vous ne plaisantez pas du tout. Eh ben, c'est pas plus mal au fond, car je ne plaisante pas non plus. Il n'y a rien de plus absurde pour commencer que de vouloir créer des emplois, qu'on veuille créer des revenus et des sources de revenus. Ça, on ne saurait que trop. Des salaires, des mensualités, des allocations, des rentes, des pensions, des assurances sociales ou toute chose on ne peut plus souhaitable, Dieu sait. Qu'on veuille créer des biens de consommation, rien de plus digne d'encouragement. Du pain, des grille-pains, de la brioche, des bicyclettes, des parfums, des cartes du pays gagaouche, des maisons du rouge à lèvres, des ordinateurs de poche, des capotes anglaises, des tulipes ponceaux, des balles de ping-pong, enfin tout ce que peut exiger le besoin ou tout ce que peut imaginer le désir. Et même ce qu'il ne peut pas encore imaginer et qui bientôt pourtant se verra exigé par lui comme un besoin. Oui, 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 oui. Voilà des intentions utiles et méritoires, mais qu'on veuille créer des emplois. Les emplois ne sont que des moyens, il conviendrait de ne pas l'oublier. Oh vous, mes chers inattendus contemporains, je dois vous avouer que je ne vous avais pas vu comme ça. L'emploi n'est pas une fin en soi, or ce sont les fins qu'il faut poursuivre, pas les moyens. Il n'y a pas de problème de l'emploi, il y a un problème de revenu d'une part et un problème de temps. Un problème de revenu qui manque et que l'on ne saurait où trouver, un problème de temps qui est en excès au contraire et dont on ne saurait que faire. Un problème de recherche d'argent. Un problème d'usage du temps. L'un est économique, l'autre est ontologique. Cette question de l'emploi est posée d'une façon absurde par tout le monde depuis 20-30 ans. Ainsi s'explique qu'on ne lui trouve pas de solution. Dans les termes dont on se sert pour la formuler est déjà clairement inscrite non pas la réponse, mais l'absence de toute réponse qu'on puisse lui apporter. On voudrait que chacun ait un emploi. Or, il est bien évident que des emplois, il y en aura de moins en moins, au sens du moins qu'on a donné à ce mot jusqu'à présent. L'emploi est le lieu d'un contrat, n'est-ce pas? Un contrat où se croisent et devraient satisfaire réciproquement en bonne logique de besoin. L'employeur a besoin que les emplois qu'il offre soient remplis pour que soit assurée sa production et garantit ses bénéfices. Et l'employé a besoin de remplir l'emploi qu'il occupe ou qu'il recherche pour que soit assurée sa subsistance. Si l'un de ces besoins disparaît, le besoin symétrique se trouve sans point d'appui, il bat dans le vide, il n'y a plus de contrat possible, il n'y a plus d'emploi concevable, car on ne peut pas demander à l'employeur, tout de même, quel qu'il soit, à un particulier, l'État, la société en général, vous, moi, d'employer l'employé à ne rien faire, et à ce rien, l'employé lui-même ne peut pas sérieusement aspirer. Bien entendu, il y aura toujours des milliers de choses à faire, et de plus en plus intéressantes. Mais de choses à faire parce qu'on a envie de les faire, et pas parce qu'on y est forcé pour se procurer de quoi vivre. Il y a des milliers de façons d'employer son temps, mais elles ne constitueront pas des emplois, mais bien plutôt des tâches d'utilité publique ou d'utilité privée, bénévolat, études, recherche, gymnastique, restauration de monuments historiques, actions charitables, méditation transcendantale. Je sais bien qu'il y a la question d'argent, comme d'habitude, et là, je dois bien reconnaître, hélas, que je n'ai pas de véritable solution pour une fois. Je suis un économiste de 25e zone. Je ne suis pas un économiste du tout. On s'en est peut-être aperçu déjà, malgré mes efforts d'esbrouf. Et de toute façon, je ne peux pas résoudre d'un coup, à moi tout seul, tous vos problèmes. Ce ne serait pas sain. Mais si le problème, c'est l'argent, qu'on l'appelle le problème de l'argent, bon Dieu, ce serait plus clair, et pas le problème de l'emploi. Qu'on se dise, si c'est le cas, il y a 3 millions de personnes qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir, ou pour se loger, ou pour nourrir et loger leur famille, ou pour acheter des livres, ou pour aller en vacances de neige à Méribel-les-Alus, ou pour assister à un spectacle de danse. Qu'on dise cela, si c'est vrai, mais qu'on ne dise pas, qu'on n'aille pas dire, il y a 3 millions de sans-emploi, ou bien, si l'on tient absolument à le dire, malgré mes objections, mes objurgations, qu'on le dise pour s'en réjouir, car il n'y a vraiment pas de quoi s'en lamenter, je vous assure. Rien n'est embêtant comme de n'avoir pas d'argent, là je suis bien d'accord, et je suis même payé pour le savoir. Mais n'avoir pas d'emploi, ça c'est une grande chance dans la vie. On est presque embarrassé d'avoir à le rappeler, tant c'est une évidence et même une vérité première. Aucune déploration, ou presque aucune, sur les affres économiques qu'entraîne le chômage pour la communauté en général et pour les individus qui en sont victimes en particulier ne sera jamais exagérée. Il y a là du vrai souci et souvent du vrai malheur sur lesquels il n'y a pas lieu d'épiloguer sinon pour s'y associer respectueusement et pour tâcher de les atténuer si l'on en est capable. Non, ce sont les déplorations annexes, celles qui portent sur l'honneur, sur la honte, sur le temps dont on ne saurait que faire, qui me semblent devoir être sérieusement examinées et dépouillées d'un peu de leur draperie, frustrées de l'assentiment de nos mouchoirs. Maintenant, quant à l'épreuve purement économique, ceci toutefois. S'il n'y a pas de travail pour les travailleurs, s'il n'y a pas d'emploi pour les employés, est-ce que ce ne serait pas que la production est suffisante sans eux et que pour les services, on peut se passer de leurs services ? On l'a déjà beaucoup dit, on continue beaucoup de le dire, mais on est de moins en moins cru. La petite crise, le marasme économique n'est peut-être pas indépendante de la grande, mais la grande, elle, la fin définitive du plein emploi, est bel et bien indépendante de la petite. Elle prouve tous les jours son espiègle, le défaut de bride. La mauvaise conjoncture économique dépend peut-être un peu du chômage, mais le chômage, lui, ne dépend pas de la mauvaise conjoncture économique, bonne ou mauvaise. Le chômage est là pour rester. Il va devenir la norme. Mieux, faudrait donc, à mon avis, l'appeler d'un nom qui risque moins de le vexer à la longue et qui soit le reflet à son propos d'un point de vue un peu moins négatif. Je sais pas, moi, quelque chose comme le loisir. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Le temps. La liberté. L'occasion d'être. Encore faut-il bien vivre, insistez-vous, en attendant de les voir régler ? Soit, est-ce qu'on peut faire en sorte, et vite, que tous les individus qui composent une société, la nôtre, aient de quoi vivre décemment ? J'imagine que la réponse à cette question dépend du sens qu'on lui donne. Et d'abord, bien entendu, qu'appelez-vous vivre décemment ? Personnellement, j'aurais tendance à placer la barre assez haut. Je ne suis pas un puritain et moins encore le bon sauvage. Je suis pour qu'on détache la vie de la contingence. Voilà ce que je suis pour. Je crois que la vraie vie commence au moment où l'on n'est plus obligé de la gagner, quand le travail est une dépense, comme le sport, et non plus un indispensable revenu, quand il est un travail sur soi-même, même s'il est un travail pour les autres. Je sais bien que ces choses-là varient selon les individus et nous ne sommes pas dogmatiques, qu'elles changent selon leur position philosophique, leur goût, leur degré d'avancement dans la sagesse ou dans la magique étude. Mais enfin, d'une façon générale, j'aurais tendance à appeler vivre décemment, disposer de tout ce qui est nécessaire pour n'avoir pas à se soucier du nécessaire. Un toit, un peu d'amour, 2 ou 3 repas par jour, des livres et le goût des livres, la télévision, puisque vous y tenez, de la musique, que sais-je, le loisir de prendre la porte de temps en temps et la route, les routes. De plus en plus de tombées du ciel, d'évidence, vont se trouver gracieusement dispensées de gagner leur vie à la sueur de leur front. Or, à mesure qu'ils voient cette dispense s'approcher d'eux ou les toucher déjà de son aile diaphane, ils s'en affolent. Travailler, pourtant, il conviendrait qu'il leur en souvint. Travailler ne leur plaisait pas si fort, jadis, quand ils y étaient contraints. Mais ne pas travailler les rend fous. Ils se complaisent dans cette folie, dans son annonce, dans sa menace. Et toute une société s'y complaît avec eux. On fait semblant de les comprendre, on les comprend vraiment. On se délecte à n'y comprendre rien, à leur côté. J'ai perdu mon emploi, dit ce jeune père de famille à ma femme. J'ai bien été obligé de le dire, mais à mes enfants, je n'ose pas, vous comprenez. J'ai honte. Alors je fais comme avant, pour la galerie. Tous les matins, je fais semblant d'aller bosser. Et je ne rentre qu'à 6h ou 7h, comme du temps que j'avais un boulot. Mais le plus dur, c'est de tuer le temps. C'est ça que les gens ne comprennent pas, des journées entières à ne rien faire. C'est l'enfer. Mais non, les gens ne comprennent que trop et ils ont bien tort. Des journées entières à ne rien faire, monsieur, c'est le paradis avant la pomme. Des journées entières à ne rien faire, je veux dire qu'on soit obligé de faire pour ne pas mourir de faim ou pour sustenter sa maisonnée. Mais il est en plein délire, ce bonhomme. Il veut tuer le temps. Or, le temps, sachez-le, il ne s'agit pas de le tuer, mais de le sculpter, de lui faire prendre et la pose, de lui donner des formes, de l'expression, du volume, et de recueillir soigneusement jusqu'aux éclats coupants que notre ciseau fait jaillir de sa masse. Ce que sculptant, nous nous sculptons nous-mêmes, bien entendu, car il est la pierre dont nous sommes pétris, pétrés. Creusez sa tombe, allez-y, mais souvenez-vous que nous sommes la dalle que vous allez poser sur lui. Bien heureux encore, bien heureux si quelqu'un s'est taillé notre nom dans le bloc et nos dates. « À qui fera-t-on croire, amour du ciel, que perdre son travail est un sujet de honte ? Bon, d'accord, à tout le monde apparemment. Ce chômeur de frais déclare qu'il n'ose pas faire l'aveu de sa situation à ses enfants, de crainte qu'il n'ait pour lui le même respect, qu'il le méprise, peut-être, qu'il l'aime moins. Qui sait ? Il dit cela, il profère cette énormité, et personne ne saute dans le poste pour mettre les choses au point. Mais où est-ce placer la honte ? Où est-ce placer l'honneur ? Est-ce que c'est faire trop de cas des enfants, ou bien pas assez, que de respecter à ce point leur irrespect possible ? Encore si cet homme avait été congédié pour incompétence, chassé pour malversation, mis à pied, comme il paraît qu'on dit, pour quelques méchants cuirs professionnels. Bon, on pourrait concevoir, je dis bien concevoir, qu'il ait raison d'avoir honte, comme il dit, mais pas du tout. Son entreprise bat de l'aile ou quelque chose comme ça, elle a dû licencier un tiers de ses effectifs, mettons, et ceux qui sont restés en place pourraient bien suivre le même chemin à plus ou moins brève échéance. Il n'a pas été question de faute une seule seconde, bien au contraire, mais d'honneur bafoué, de dignité blessée. Récapitulons, pas de faute, donc des enfants nourris, vêtus, élevés, au point qu'ils ne se sont même pas aperçus d'un changement, pas trop de traite à payer, pourtant cette honte. Mais c'est cette honte qui est honteuse. On a pour cette honte mille fois trop de respect, car enfin, qui l'a renvoyé cet homme ? Un homme, comme lui, des hommes, comme lui, des hommes. Donc, il aurait honte, parce que des hommes, comme lui, ne voudraient plus lui donner du travail. Mais qui dit qu'il faille lui donner du travail ? Qui dit qu'ils doivent en tenir d'un autre, d'un groupe, d'une société ? N'est-il pas assez grand pour s'en donner lui-même ? Et son temps, et c'est là que je veux en venir, et à rien d'autre, son temps, est-il si peu précieux à ses propres yeux qu'en disposer en abondance, ce soit pour lui une telle calamité ? Ce qui est honteux, ce n'est pas d'avoir perdu son travail. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Ce qui est honteux, c'est de ne savoir que faire de son temps. Thank you.